Chers amis, Hachem Alechem Tihyou, Léorechem Tovim Shalim Léimim. Nous poursuivons notre lecture du livre exceptionnel Zera Shimshon. Nous sommes à la parashat Kitetse, au Darush Dalet. Cette étude de l'ouvrage exceptionnel du grand maître, l'illustre Rabbeinu Shimshon Haim Nahmani Zichrono Lechaya Olam, que son mérite nous accompagne. Et comme un rayon de lumière qui jaillit et qui illumine notre vie. Que tout celui qui espère, qui est en attente d'une Yeshua, que Kadosh Baruch Hu lui octroie son espérance, sa demande, sa requête, par le mérite du Maître. Dans la paracha, il est dit « Kikare kantzipor lefanecha » Quand il arrive que tu rencontres un nid d'oiseau, en chemin, bah derrière, bechol haetz, sur un arbre, ou sur la terre, ou à terre, alors dans ce lit, il y a des oisillons ou des œufs qui sont couvés par la mer. Alors il y a marqué, « Lotika ha'em alabanim » Tu ne prendras pas la mer de sur les enfants. C'est-à-dire tu prends les enfants devant la mer. Et là, « Shalea teshalea etahem » Tu devras renvoyer, c'est dit en répétition, « Renvoie, tu renvoieras la mer. » Et les petits, tu les prendras. Afin que tu sois heureux, et que tes jours se rallongent. Dans la Gemara, il est dit, nos maîtres, à ce sujet, nous disent sur la manière de formuler la prière. Ils nous mettent en garde sur les termes, les expressions qu'on emploie. Il s'agit d'employer, dans la tefila, il s'agit d'employer, d'utiliser des termes justes, faire nos demandes avec une précision particulière, de sorte que nos prières ne soient pas rejetées et repoussées. Alors il peut arriver que quelqu'un dise, il fait sa prière et dit « Aomer al-Katimpor yagiu rahamecha » Dans sa prière il dit « Seigneur Tout-Puissant, de la même manière que tu as eu pitié du nid d'oiseaux, de la mer et des oisillons, alors pourquoi il a eu pitié ? Alors ou bien parce que d'abord il faut renvoyer la mer et après prendre les oisillons. Donc on ne prend pas la couvée de devant la mer. Ça, c'est une raison qui montre qu'on est un peu, on agit avec miséricorde dans la mitzvah. Deuxièmement, la mer, quand elle va revenir, elle va avoir cette souffrance et ça va susciter le réveil des miséricordes célestes. Alors, celui qui dit ça dans sa prière, alors il dit de la même manière que tu as eu pitié du nid d'oiseau, aie pitié de nous. Alors là, la Mishnah dit « Mashtikim oto, on le fait taire. » Et la Gemara de justifier le fait qu'on le fasse taire, parce que tu es en train de dire « Shehose » La Gemara dit « Shehose midotav shela kadosh baruch hu ahamim » Il attribue aux midot, aux qualités de la kadosh baruch hu, que la miséricorde. Alors que les mitzvot ne sont que des décrets divins du roi tout-puissant. Et nous devons les appliquer dans cette idée-là, que ce sont les décrets, nous sommes les serviteurs du roi qui accomplissons sa volonté. Donc il n'y a pas lieu de justifier l'acte de la mitzvah en lui attribuant une qualité de miséricorde. Ça c'est la Gemara. Mais non, cependant, dans le Midrash, nous dit le Rav Zera Shimshon, on voit que le Midrash commente la mitzvah de manière différente. Qu'est-il dit ? Dans le Midrash, il dit « Keshem shilit malak al ruchami wa la behema » De même qu'Akadosh Baruch Hu s'est rempli de grâce et de miséricorde vis-à-vis des animaux. On peut voir ça, par exemple, dans la mitzvah, il y a interdiction de sacrifier, d'abattre le père et le fils. On n'a pas le droit de tuer, d'abattre le père et le fils le même jour. Donc c'est une marque de miséricorde. De même, Akadosh Baruch Hu, il a eu pitié des volatiles. Et comment ? Ici, voilà, Kansipor. Chez Neymar, qui carré Kansipor ? Et ici, donc la Gemara, le Midrash est ici explicite que la mitzvah, elle traduit justement la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Cependant, le Midrash continue et dit que l'Éternel déborde de miséricorde. Certaines mitzvot procurent des récompenses. Toutes les mitzvot procurent des récompenses. Certaines mitzvot, il est dit, voilà, tu fais telle chose et tu auras les honneurs. D'autres mitzvot, il est dit, tu auras la richesse. Alors la Gemara, le Midrash propose, il dit, et s'interroge, il dit, que produit donc, quelle est la récompense produite par la mitzvah de renvoyer la mère? Alors Akadosh Baruch Hu répond, si tu n'as pas encore de fils, je t'en donnerai un. Comment? Parce qu'il y a marqué que Ve'a banim tikahalach. Tu prendras, donc tu renvoies la mère, tu prends les enfants. Les enfants. Donc si de ce fait de prendre les enfants, le Midrash commente, il fait une dracha, il dit, toi aussi tu auras des enfants. Alors, le Rav Zera Shimshon s'interroge. Ici aussi, il y a lieu de s'interroger. Quel lien y a-t-il entre la mitzvah? Est-ce que c'est juste un jeu de mots? On fait un jeu de mots sur Abanim Kahlar, dit Kahlar. Ou bien il y a un lien profond lié à la mitzvah qui procure comme récompense les enfants. La conséquence de la mitzvah intrinsèquement est le fait d'avoir des enfants, d'avoir des fils. Alors il y a un autre midrash grâce à ce nouveau midrash, nous allons essayer d'expliquer cela. Alors que signifie cette forme? Le midrash s'interroge sur la forme employée. Shaleach te shalach et ta'em. C'est répétitif. Renvoie la mère. Alors les chachamim disent, si tu appliques la mitzvah de renvoyer la mère, imata shaleach et ta'em, hayecha shani shaleach et Eliyahu Navi. Donc il y a marqué, si tu renvoies la mère, alors tu agis pour activer la venue du Mashiach, comme il est dit, Iné Anochi, là-bas aussi il est dit, Iné Anochi, Sholeach Lachem, et Eliyahu Navi, Ifne Bo, Yom Hashem Agadol Ve'anora. Voilà, je vous envoie Eliyahu le prophète, avant l'arrivée du jour redoutable, le grand jour de l'Éternel. Donc là aussi, nous voyons qu'il y a un lien entre la Shlichut, le fait de renvoyer la mer, et le fait d'activer la venue du... C'est comme un accélérateur qui fait que la mitzvah va venir, que le machin va venir plus vite. De plus, la Gemara dit dans Yevamot, En ben David, ba'a chichlu nefashot neshamot shebaguf. Chacham disent que le rejeton de David, c'est-à-dire ben David, celui qui sort de David, il ne surgira, il ne viendra que lorsque toutes les âmes qui sont dans le corps, Bagouf, ils auront vu le jour. Dans les Bamot, à la page 62a. Alors, a priori, c'est quoi? Alors, les Mkoubalim disent que le gouf, c'est le réservoir des âmes. Mais pourquoi on appelle ça le gouf? C'est facile, parce que toutes les âmes d'Israël qui doivent venir au monde, elles étaient contenues dans le corps de Adam Arishon. Nous savons que le corps de Adam Arishon n'était pas un corps physique, tel que nous le concevons aujourd'hui. Il était un corps fluide. Adam Arishon, il n'était pas dans ce monde-ci. Akadosh Baruch Hu n'a pas créé le monde matériel. Akadosh Baruch Hu a créé le monde du Gan Eden. Le corps de l'homme était d'une fluidité totale. Nous savons que le corps des anges, par exemple, comme la Gemara dit, la Gemara dans Holin pose la question, quelle largeur avait l'échelle dans la vision de Jacob? Alors, parce qu'il fallait des anges qui montent et des anges qui descendent. Alors, la Gemara, elle dit, c'est combien la dimension du corps des anges? Alors, là, maintenant, passons au Gviato, le corps de l'ange, Kiyam Tarshish, comme la mer Tarshish. Alors, on dit que c'est comme la largeur de la Méditerranée. Yam Tarshish, Tarshish serait, a priori, Carthage, ou un autre lieu sur les bords de la Méditerranée. Donc, cette mer-là, elle a une certaine dimension. Le corps de l'ange, il est comme ça. C'est-à-dire qu'en vérité, ce n'est pas un corps physique, évidemment. C'est un corps physique, mais ce n'est pas un corps de matière vulgaire, épaisse, comme le corps des hommes. Il est à un niveau fluide, de fluidité parfaite. C'est comme un gaz, imaginons que c'est un gaz, de l'air. Alors quand l'ange il va apparaître à Avraham Avinu, alors c'est 4000 km de dimension, de fluidité, elle est comprimée dans 1,80 m. Donc c'est comme si on comprime de l'air et on va sentir l'air comprimé, on va le sentir. Donc il prend une certaine épaisseur dans la matière. Le corps de Adam était encore plus raffiné que cela, puisque les anges eux-mêmes ont cru à un moment, nous dit le Midrashim, que c'était lui le Seigneur créateur. Ils ont pensé, donc il était une fluidité encore plus haute. Les animaux qui étaient autour de lui, ils parlent. On voit que le serpent, il parle. Donc c'était les animaux, ils ne sont pas comme les animaux qu'on a. Ce n'est pas un serpent qu'on a aujourd'hui. Donc c'est une autre dimension. Les animaux parlent. Nous dit le Ramcha dans Adir Bamaram que nous ressemblons aux animaux qu'il y avait à l'époque de Adam. Et quand Adam va fauter, donc son corps, c'est une corps de fluidité totale. Il a une dimension exceptionnelle qui voit d'une extrémité à l'autre de la création, comme il s'est marqué dans les Sfarim, donc dans les Midrashim. Donc c'est une autre dimension. Donc c'est à ce niveau-là que Akash Bokhu a créé. Les autres mondes, les mondes matériels, sont emboîtés dans ce monde-là. Donc quand ils sont emboîtés, le monde matériel est devenu secondaire. Donc il jouit de la présence de la spiritualité totale du monde le plus haut, de telle sorte qu'il perd, qu'il n'a pas la qualité, enfin il n'a pas le défaut de la matérialité. Et matérialité moindre. Nous sommes dans un concept de matérialité, de fluidité totale. Quand Adam faute, il sépare les mondes et leur donne les mondes dégringolent, se détachent les uns des autres. Et automatiquement, le monde de la matérialité va prendre son ampleur, va prendre son épaisseur. La matérialité va prendre de l'ampleur. Donc elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Donc c'est ça le monde dans lequel nous vivons. Et le monde créé par la faute de Adam Harishon. Et dans le corps de Adam Harishon, à ce moment-là, quand lui, il a fauté, quand je vous roule, l'a ratatiné, comme il a marqué, va tachet, alaika pecha, et il lui a mis la main sur la tête, la paume de la main sur sa tête, et il l'a rabaissé. Donc, c'est-à-dire, il a comprimé. Il a comprimé cette ampleur du corps de Adam, qui était d'une dimension extraordinaire, des milliers de kilomètres à notre niveau, il l'a rendu à un niveau physique, concept humain. Comme nous le connaissons. Donc automatiquement, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'il y a des âmes, ils ont été comprimés. Et donc, il y a des âmes qui ont été perdues, qui sont tombées, qui sont sorties de son corps, comme disait Mkoubali. Maintenant, toutes les âmes qui étaient contenues au départ, qui étaient attachées aux membres et aux organes de Adam, c'est ça le réservoir des corps. C'est ça le concept. Alors tant que toutes ces âmes, quand Adam a fauté, donc il a altéré son corps, les 248 membres de son corps et les 365 tendons ou nerfs de son corps ont été altérés. Donc les âmes doivent revenir. Alors il y a des âmes qui sont liées à la bouche, des âmes qui sont liées au bras. Donc il y a des milliers d'âmes qui sont liées au même organe. Et au fur et à mesure des 6000 ans de la création, alors les âmes apparaissent au fur et à mesure, c'est selon la structure humaine. Donc il y a l'homme, la dimension de Adam, elle est de 6. Une dimension en largeur de 6, de sa structure. Donc les âmes doivent apparaître de sorte qu'elles réparent, ou elles participent à la réparation pour que le Mashiach arrive. Le Mashiach n'arrivera que lorsque le tikkun sera parfait. Donc c'est ce que dit la Gemara. La Gemara le dit, En ben David, ben, achichlou nefashot, neshamot shebagouf. Donc, si cette mitzvah agit comme accélérateur de la venue du Mashiach, de son jaillissement, de son apparition, alors c'est pour cela que la Gemara dit, le Midrash a dit plus haut, que si tu n'as pas des enfants, tu auras des enfants. De sorte que, en ayant des enfants, mais en amenant des enfants au monde, ils participent à la venue, à l'empressement, à l'accélération de la venue du Mashiach. À présent, il nous faut comprendre en profondeur comment la délivrance est dépendante de cette mitzvah. Et à cet effet, le Rav ramène le fameux Zohar. En vérité, à de nombreuses reprises, le Zohar dans les Tikkunim, dans l'Agdama, dans l'introduction, à la page Guimel, la page Dalet, et dans les Tikkunim, à la page 23, plusieurs fois, c'est récurrent dans le Zohar, la comparaison qu'il y a entre le nid, la mer qui couve qui est au-dessus de la couvée, les oisillons. Comparez, le Nid, c'est Eretz Israël, la résidence de la Shekhina. La mère elle-même est la Shekhina, les enfants, c'est Am Israël. Donc est venu cet homme, Ish Tsar Veoyev, et a chassé la mère, il a chassé la Shekhina, et a pris les oisillons et les a dispersés aux quatre vents. Ils ont disparu, ils ne sont plus, et a détruit le nid. Donc quand la mère elle revient, elle constate que son nid, sa résidence est détruite, que le lieu jadis de ça, de la splendeur jadis d'Israël est détruit, est profané, est souillé. Elle se lamente. Ses enfants sont éparpillés, elle ne sait pas où ils en sont. Et le Zohar dit. Donc le Zohar est extraordinaire parce que il commente et il attribue à la Shekhina de manière extraordinaire une démarche émotionnelle, la souffrance, la douleur de voir la maison détruite, la douleur de savoir ses enfants exilés, elle ne sait pas où ils sont exilés. Et elle s'adresse alors à son créateur. La Shekhina s'adresse au Saint béni soit-il. Il dit, oh maître du monde, regarde, je souffre. Comme l'oiseau qui souffre. Il crie, il se lamente. Et le Zohar dit, cet oiseau-là, il pense même à mettre cette mère des oisillons, elle pense même mettre fin à ses jours. Et quand l'archange, le Tsar, l'ange préposé aux oiseaux, il entend ça. Il est pris, lui aussi, de miséricorde, de souffrance, la souffrance l'atteint. Et il monte vers le Saint béni, c'est-à-dire Kadosh Baruch Hu, il dit, regarde, elle souffre, cet oiseau, aide la miséricorde pour cette mère qui a perdu ses enfants. Et Kadosh Baruch Hu, en entendant ça, alors il dit lui-même, si déjà l'ange qui domine les oiseaux, et qu'il a un sujet qui souffre, et lui, il le prend à son compte, la souffrance. Alors moi, qui est la source de toute la miséricorde et de la bonté, ne devrais-je pas, moi aussi, prendre à mon compte la souffrance et avoir de la miséricorde, de la bonté, de la compassion pour mes enfants qui sont exilés aux quatre coins du monde et que même leur maison a été détruite? Et c'est là que ça réveille, nous dit le Zohar, la miséricorde totale, et ça rapproche la venue du Mashiach. Comme il est dit, le Zohar ajoute, quand Kadosh Baruch Hu se dit, quelle douleur j'ai moi-même d'avoir détruit ma demeure et exilé mes enfants de la terre. C'est pour moi, nous dit le prophète, les Ma'ani Aessé, qui Ech Yahel Ukhvodi Laher Loitan. L'Oéthène nous dit Isaïe, c'est pour moi uniquement que j'agis, pour mon nom, pour ne pas le profaner aux autres nations. Et Ézéchiel dit, c'est les Mahanchemi, les Biltiahel, afin que mon nom ne soit pas profané aux autres nations. Alors de cet enseignement, il est clair, limpide comme de l'eau de roche, que cette mitzvah précipite et active le processus de la délivrance jusqu'à en bousculer les étapes et les contracter. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire qui va se passer grâce à cette mitzvah. Nous dit le Rav, poursuit le Rav, Zera Shimshon, Rav HaShalom, il nous dit, le renvoi de la mer renferme en fait la qualité suprême de la clémence. Cependant, nous dit le Rav, il ne sied pas d'associer l'acte de renvoi, celui à cette rahamim, à cette miséricorde. Parce qu'en apparence, cet acte-là est un acte de cruauté. Comme nous l'avons vu, la miséricorde n'est suscitée qu'en deuxième temps, par la douleur de la mer. Elle ne se dévoile que plus tard. Et elle se dévoilera plus tard parce qu'il faut le temps de la souffrance, le temps où elle élève son cri, où elle élève ses douleurs, que l'intermédiaire, l'archange, passe, transmette le message à Kadosh Baruch Hu et Kadosh Baruch Hu lui-même réagisse. Donc c'est en plusieurs temps. La Gemara emploie le mot midot. Sur ça, le Rav Zera Shimshon, il se pose la question. Tout le monde se pose la question, a priori. Pourquoi avoir qualifié les mitzvahs, la mitzvah? Il lui aurait dû dire, « J'ai enseigné mitzvotav chez la Kadosh Baruch Hu. » Pourquoi tu dis mitzvotav? Il s'agit des mitzvot. Il fallait dire, « J'ai enseigné mitzvotav chez la Kadosh Baruch Hu, rahamim. » Pourquoi avoir employé le terme de mitzvot pour qualifier la mitzvah? Donc c'est comme si tu attribues les émotions, l'expression des émotions à la mitzvah, ça se fait pas. Pourquoi utilise, alors la vérité c'est pourquoi il utilise le terme de mitzvah, qu'est-ce qui est renfermé là-dedans? Alors que ce ne sont des décrets divins, la volonté que Dieu, Kazbohu est le roi, nous sommes ses serviteurs, il nous ordonne d'agir, nous agissons comme un sujet qui applique les volontés de son roi. Alors il est dit au sujet de la pitié, de la clémence du Seigneur Tout-Puissant, Akadosh Baruch Hu, après la faute du Vaudor, de Moshe demande à Akadosh Baruch Hu, « Arénina et kevodecha, dévoile-moi ta gloire. » Et Akadosh Baruch Hu lui répond, « Vayomer, il lui dit, « Vehanoti tachevehania viratu koltuvi alpanecha, je ferai passer toute ma bonté devant toi. » Vekarati Beshem, et je parlerai, j'appellerai, je présenterai le nom Hashem Elefanecha, le nom d'Hashem, Yod Kevavke, devant toi. Vehanoti et Asherahon, et j'accorderai la grâce, je ferai grâce à celui à qui je voudrais faire grâce, et j'accorderai la miséricorde à celui à qui je veux accorder la miséricorde. Ici, entre parenthèses, il s'agit des 13 attributs de la clémence. Qui nous dit, Orahaim Akadosh, c'est que, Vekarati Beshem. Ça veut dire quoi, Vekarati Beshem? J'appellerai le nom. Hashem. Alors ici, il faut marquer une virgule. Vekarati Beshem, un arrêt, une virgule. Adonai Lefanecha. Ça veut dire, il dit, ici, Chacham nous dit, ce qu'il s'agit en réalité des 13 attributs de miséricorde. El, Rahom, Vehanun, Erech, Apaim, Verab Hesed, Vehemet, Notse Hesed, La Alafim, Notse Avon, Vapesha, Vehataa, Venake. Et c'est l'association des 13 attributs de miséricorde qui sont les 13 attributs de la clémence la plus suprême. Nous dit le Hari, il s'agit en fait d'un niveau qui est le plus haut possible de la bonté totale. Là, c'est ce que les Mkoubalim appellent le Erich Anpin, le grand visage. Là où, c'est quand Akadosh Baruch Hu se manifeste dans sa bonté totale. Alors quand Moshe Rabbeinu est monté sur le Har Sinaï et est monté dans les cieux, comment lui est apparu le Seigneur Tout-Puissant? Kezaken Vyoshev Bishiva. Comme un vieux, un Zaken, qui était assis à la Yeshiva. Donc il a les cheveux blancs, la barbe blanche, tout du blanc, tout de blanc. Et ce blanc-là, c'est la bonté totale, la bonté absolue. Et c'est ça les 13 attributs, ce sont des flux de bonté totale, impossible, incommensurable. On ne peut pas les... qui sont octroyés. Donc c'est l'association, c'est la conjugaison de ces 13 qui forment le nom de Dieu. C'est ça. Bekarati Beshem, Beshem, chacun des noms, des attributs de la clémence, Hachem Lefanecha, c'est l'association des 13 qui forment le Shem, Hachem, Yotke, Bavke, le nom de la bonté totale. Alors on nous dit, alors qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant revenons au texte, nous dit la Gemara, le Pasuk, je ferai faveur à qui je veux faire faveur, miséricorde à qui je décide de faire miséricorde. C'est-à-dire, il n'y a pas de règle. Je fais à celui-là, je ne fais pas à celui-là. Je fais à l'autre, je fais la miséricorde à celui-là et pas à celui-là. À qui celui qui... Ça veut dire que la miséricorde, en réalité, nous dit la Gemara. Ça veut dire que la personne à qui Akadosh Baruch Hu octroie la grâce, la miséricorde, elle ne mérite pas, en fait. Alors pourquoi? Parce que j'ai envie. Il n'y a pas de raison. Celui à qui je veux octroyer la grâce, la miséricorde, etc. Je lui octroie. Ne pose pas de question. Pourquoi il a la miséricorde? Il n'y a pas de question à poser parce que je le veux. Que Jehovah décide et agit en dehors de toute rationalité, en dehors de tout jugement. C'est le sens même de la grandeur des 13 attributs de miséricorde qui sont à un niveau extrêmement haut, qui sont ceux qui sont prononcés dans Micha, Miel, Kamocha, qui sont à un niveau qui sont les flux eux-mêmes de la miséricorde. Alors que ceux qui sont prononcés par Moshe, El, Rahum et Hanoun, ceux-là, ce sont à un niveau beaucoup plus bas, qui sont les conduits par lesquels les Midot, El, Miel, Kamocha, pénètrent, passent. Donc, El, c'est le conduit de Miel, Kamocha, etc. Alors, donc, l'Éternel accorde sa pitié, sa grâce à qui bon lui semble, là où il le décide, pour l'un et pas pour l'autre, dans telle situation et pas ailleurs. Donc, c'est le sens même de la pitié et de la clémence. Elle n'est pas rationnelle, elle n'est pas dépendante d'un jugement ou d'un dossier ou bien de fait. Il n'y a aucune raison à cela. Alors, peut-on lui demander des comptes et dire, voilà, il y en a un qui est à l'hôpital et il est sur le point de mourir. Il est en phase terminale d'assainissement. Et à celui-là, toi, Éternel Tout-Puissant, tu as accordé la vie. Tout d'un coup, le type, il guérit, il se lève. Alors, et on a un autre maintenant, on a un rabbin, un chacham, un tzaddik, qui est lui aussi dans la même situation. Mais lui, il n'a pas été guéri. Alors, on vient à la synagogue, on fait la prière. Il dit, Dieu, toi qui as accordé la vie au premier malade qui a guéri. Mais sache, Éternel, ce premier malade, il n'est pas tellement sadique. Il est un bon juif, mais simple. À l'autre, alors si tu as accordé au simple juif, qui est à peine traditionnaliste, la santé, la guérison de manière exceptionnelle, miraculeuse, tu lui as accordé ta grâce, alors c'est sûr que tu dois l'accorder à l'autre, qui est plus sadique, qui est racham, qui est un rabbin, qui étudie la Torah, qui fait la Torah, les mitzvot, et un hassid, etc. Est-ce qu'on peut parler comme ça? Il dit non, on n'a pas le droit de parler comme ça. Parce que ni l'un ni l'autre ne mérite. Et si Akadosh Baruch Hu a octroyé, il n'y a pas de règle. Parce que si c'est comme ça, on va faire la prière, on va dire à Dieu, tu octroies à tout le monde. Alors si on l'octroie à tout le monde, alors c'est devenu un jugement, un raisonnement rationnel. Alors que le sens même de la miséricorde, c'est que c'est irrationnel et que c'est juste. Hachem, il fait ce qu'il veut. Alors c'est exactement l'histoire de la prière. C'est exactement ici l'histoire de la prière. Lui, qu'est-ce qu'il dit dans la prière? Il dit, Dieu Tout-Puissant, de la même manière que tu as eu pitié de la mer et avec les oisillons, aie pitié de nous. C'est-à-dire que tu veux que quelque chose qui est juste la pitié totale, c'est la midda d'Hachem. C'est cette qualité-là que Dieu peut et octroie là, sans qu'il y ait aucun mérite. Et toi, tu fais un raisonnement, tu vas faire une loi de quelque chose qui est en dehors de la loi. Et ça, à ce moment-là, ça réveille les accusations. Tu veux, le raisonnement même est un raisonnement de rigueur, rigoureux. Et donc, ce raisonnement rigoureux, il réveille la rigueur. Et on va obtenir l'effet inverse. Alors, c'est pour ça qu'on le fait taire. On le fait taire de sorte, c'est ça la mida. On s'est mis d'otage chez la Kadosh Baruch Hu. Il va faire la mida de Hanoun Verahoum, qui est irrationnel. Il la rend et lui donne une dimension de naturelle, de digne, de rigueur, de raisonnement. Et c'est pour ça qu'on le fait taire. En même temps qu'on le fait taire, on fait taire l'accusation. Parce qu'il y a toujours des accusateurs qui vont empêcher nos prières de s'élever au plus haut. Et de telle sorte que justement, en le faisant taire, on accepte, on ne demande rien, et quand je me retrouve tout seul, il va octroyer la... Il va octroyer la grâce et la miséricorde. Alors c'est ça ce qui est ici mentionné. Et d'ailleurs, parce que si on ne fait pas taire ce monsieur qui a utilisé ce texte pour faire la prière, voilà que le Midrash dit que si on dit il est tzaddik, alors s'il est tzaddik, on le met à l'épreuve. Au contraire, le Nisayon, à Kadosh Baruch Hu met le mot Nisayon, Nes, la data Nes, Dieu il dit, j'ai donné dans le passage qui est dit, j'ai donné Nes l'hypnosis. Le tzaddik, on lui donne un fanion pour s'élever. Mais le mot Nes, le fanion, le drapeau, l'élévation, on fait un jeu de mots dans le Midrash pour mentionner la mise à l'épreuve. Plus l'homme est tzadik, plus on le met à l'épreuve. Pourquoi? Parce qu'il y a des accusations. Alors pour faire taire l'accusation, on va le mettre à l'épreuve. Alors ça, on veut éviter. On veut éviter l'épreuve. On veut justement éviter. Alors on le fait taire. De sorte que la miséricorde, elle vienne de manière automatique. En accomplissant la mitzvah, automatiquement la miséricorde se met en marche. Mais nous, on n'a pas à susciter et à mentionner cela. C'est comme si quelqu'un il fait la tfila Bekavana. Il fait la tfila Bekavana. Il se concentre, une tfila extraordinaire. Il se sent plané pendant la tfila. Il finit la tfila et il dit, avec la tfila que j'ai fait, extraordinaire, Dieu il va m'écouter. Alors ça s'appelle Ayun Tefila, justement il obtient l'effet inverse. Parce que dès que tu as mentionné cela, tu vas rentrer dans la rationalité et dans la rigueur du raisonnement. Quelque chose qui est sûr, tu invoques, tu implores la miséricorde totale sans avoir aucun mérite. Et après, avec ce sentiment de satisfaction, de plénitude, de bien-être, d'avoir fait une prière exceptionnelle, là, tu te dis, voilà Dieu, comme si qu'il est obligé. Alors tu rentres ta prière. Ce que Dieu doit t'octroyer de manière gracieuse, tu le rends dans un concept de loi et de dîn. Et c'est pour ça que ça marche pas. Et Yon Tefila, ça réveille la rigueur. Donc c'est pas quelque chose à faire. C'est exactement du même concept. Alors, fais la mitzvah, suscite la bonté, et attends que Hachem te l'octroie. Parce qu'il te l'octroiera. Il te l'octroiera sans que tu le mérites, sans que ta prière ait une valeur, sans rien. Parce que lui veut octroyer, c'est le sens certain, profond et premier de la prière. Et d'ailleurs, les commentateurs disent, Ben Israël mentionne ça dans son livre de Halakha. Il dit, avant de commencer, on colle le premier pasouk de la Hamida à Gaal Israël, on dit, Baruch atah Hashem, Gaal Israël, Hashem, Sefata et Tifta. Et on s'arrête, il dit. Et là, il faut méditer, qu'on se plaise devant Kadosh Baruch Hu, que Dieu est devant nous. Et il faut méditer un instant. Kadosh Baruch Hu écoute, exaucera notre prière, non pas parce que notre prière, elle vaut quelque chose, qu'elle est bien faite, que nous ayons un mérite quelconque, mais parce que lui, il octroie sans retenue, sans limite, parce qu'il est lui la source de toute miséricorde totale, de la miséricorde absolue. Et ça, c'est la première kavana qu'il faut avoir quand on fait la prière. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen, yiratzon, Kakash Baruch Hu, exauce, écoute, exauce nos prières, qui fassent notre volonté comme la sienne propre. De la même manière que nous aspirons à faire sa volonté, notre volonté de faire sa volonté. Yiratzon, que cette étude soit l'ilui nishmata, shelivet halobar Julie, bat Julie, rohamat zikoet matinet, Mordechai Bariza, Benyamin Yaakov Barzoar, Iris, Zuchonam, Lechayo Olam. Pour la Refoua Shelema, Refoua Tanefesh, Fadavi de Shimon Bamachlou, Nissan Tzvi Barzvora, Yodit Eugénie Michel Batrahel, Haim Barsimi, David Barsaada, Shimon Barzosephine, et Shalom Barsimi, et tous les autres malades, Anna, Anna, Rafanin, Kakash Borou, leur octroie la vie et la santé, une longue vie, une longue santé, dans le bonheur, la joie et la sérénité. Tout celui qui est en attente d'une délivrance, Akadosh Baruch Hu lui octroie, exauce ses prières, lui ouvre les fenêtres, lui donne l'opportunité de changer de situation. Tout est possible par le mérite de l'étude de la Torah et par le mérite en particulier du maître Rabbi Shimshon Haim Nahmani qui a promis dans son livre d'intervenir en faveur de ceux qui s'adonneront à l'étude de ses ouvrages pour lui laisser une descendance de lumière en ce monde, et c'est la lumière qui illuminera nos vies, qui est la lumière que nous lui procurons, la joie que nous lui procurons de faire d'étude de ses livres. Et alors cette lumière-là reviendra en retour et procurera et illuminera chacun d'entre nous. Baruch Adonai Le'olam, Amen V'Amen.